VOA Afrique, les infos. À Washington.
Au micro, Nani Talani. Dans quelques instants, vous suivrez l'émission Carrefour avec Eric Mani Rakiza. Mais tout d'abord, les nouvelles. Les épidémies de fièvre jaune en Angola et en République démocratique du Congo sont sous contrôle, c'est ce qu'a affirmé ce mardi l'Organisation mondiale de la santé. Selon la directrice du département des maladies épidémiques et pandémiques de l'OMS, le risque d'une épidémie majeure est terminé. Cette bonne nouvelle est la conséquence des campagnes de vaccination massive lancées en Angola et en RDC il y a 2 mois. Quelque 23 millions de personnes ont été vaccinées dans les deux pays. L'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda en grève de la faim depuis la semaine dernière pour protester contre les conditions de détention à la CPI et ses juges ont dit ce mardi qu'il était prêt à mourir. Nathalie Barge.
Je n'ai pas la possibilité de voir mon épouse et mes enfants dans des conditions normales. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu tout espoir. Voilà pourquoi je suis prêt à mourir, a déclaré Bosco Ntaganda dans une déclaration lue par son avocat. L'ex-rebelle congolais a également demandé à maître Stéphane Bourgeon de ne plus le représenter et de cesser toutes les actions en justice en son nom. Il a cessé de s'alimenter la semaine dernière pour protester contre les restrictions à ses appels téléphoniques et les droits de visite mis en place depuis 2014, après que les juges aient conclu qu'il essayait d'interférer avec les témoins. Ntaganda a participé aux audiences ce mardi via un lien web vidéo dans le centre de détention de la CPI après la conclusion d'un rapport médical ce matin concluant que son état de santé ne lui permettait pas d'être déplacé. Il fait face à 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité concernant des attaques meurtrières à caractère ethnique en 2002 et 2003 dans l'Ituri en République démocratique du Congo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afrique du Sud, les autorités ont interdit ce mardi l'entrée sur leur territoire à un prédicateur chrétien américain dont les propos homophobes ont suscité une levée de boucliers de la communauté gay sud-africaine qui s'était mobilisée contre sa venue. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Toute la communauté gay sud-africaine s'est mobilisée contre la venue de Steven Anderson de la Faithful World Baptist Church qui était attendu ce week-end dans la nation arc-en-ciel où il comptait, je le cite, « conquérir des âmes ». L'annonce de sa visite avait suscité un tollé et une pétition en ligne contre sa venue avait recueilli plus de 600 000 signatures. Réactions qui ont poussé le gouvernement à intervenir, le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a annoncé que Steven Anderson, ainsi que les membres ou les proches de son église, sont interdits d'entrer sur le territoire sud-africain, ceci afin d'éviter tout préjudice et toute manifestation de haine, quelle que soit sa forme, contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, autrement dit les LGBT, c'est ce qu'a précisé le ministre. L'Afrique du Sud, qui a légalisé le mariage gay en 2006, est un des pays les plus progressistes en matière de droits des LGBT. Steven Anderson doit se rendre prochainement au Botswana voisin, où l'homosexualité reste un crime.
Le rapport qui accuse l'élite politique et militaire du Soudan du Sud de s'être enrichie en profitant de la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013 est de la foutaise absolue. C'est la réaction ce mardi du gouvernement sud-soudanais. Le rapport a été publié hier par le groupe d'investigation The Century, dont l'acteur américain George Clooney est le cofondateur. D'après The Century, les familles des élites sud-soudanaises vivent souvent à l'étranger dans des villas de luxe de plusieurs millions de dollars. Ils passent leurs vacances dans des hôtels 5 étoiles et récoltent les bénéfices de ce qui semble être un système de népotisme et de contrats douteux. Le principal catalyseur de la guerre est en fait la compétition pour le contrôle des abondantes ressources naturelles du pays, notamment le pétrole. C'est ce qu'affirme encore ce rapport. Mais pour le porte-parole de la présidence sud-soudanaise, le rapport est trompeur et motivé politiquement pour ternir l'image du président Salva Kiir et celle des généraux qui luttent pour le bien du pays. Voilà, c'est la fin de ce jour, de ce bulletin d'information. Merci d'avoir suivi. Mais plus d'informations sur notre site internet www.voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
heureux de vous retrouver, chères auditrices et auditeurs de Carrefour Science et Santé. Vous écoutez VOA Afrique, Eric Manilakiza avec vous. Aujourd'hui, nous revenons sur la transmission du virus Zika. Nous abordons la question de repas scolaires en Afrique de l'Ouest et centrale, où plus de 1,3 million d'enfants sont concernés. La protection des forêts en Côte d'Ivoire, la simulation de vie sur Mars. Nous découvrons ensemble des journalistes schizophrènes. Et si vous voulez mieux vivre, ne quittez pas, c'est la surprise que vous réserve Carrefour Science et Santé. Bienvenue. Nous ouvrons notre magazine sur la simulation de vie sur Mars. Trois hommes et trois femmes ont vécu en vase clos pendant un an sous un dôme à Hawaï pour une expérience de la NASA qui prépare une émission habitée sur Mars. Lionel Gahima.
Ces six volontaires étaient confinés depuis le 28 août 2015 dans un espace de 11 mètres de diamètre sur 6 mètres de hauteur sur la côte nord et aride du volcan Mauna Loa. C'est la plus longue expérience d'isolement américaine. Les Russes en ont mené une qui a duré 520 jours. Quatre Américains, dont un pilote, un architecte, un médecin journaliste et une scientifique spécialisée dans le sol, de même qu'un exobiologiste français, une physicienne allemande, composaient l'équipage. Une vidéo les montre sortant du dôme avant de poser pour des selfies avec des visiteurs. Cet équipage s'est nourri de fromage en poudre et des boîtes de thon. Tous se sont dit satisfaits de l'expérience, sauf que le plus difficile était la monotonie. Un des volontaires affirme qu'une mission sur Mars est possible dans un proche avenir car les problèmes techniques et psychologiques peuvent être surmontés. Un des défis pour les prochaines missions prévues à l'horizon 2030 demeure la production de la nourriture sur un sol martien très sec et où l'eau est une denrée rare. Les membres de cette mission ont même été impliqués dans des loisirs comme la salsa. L'Allemande Christiane Henrique a évoqué les difficultés de vivre avec les mêmes personnes pour une longue période dans un espace confiné. Ces volontaires disposaient d'une petite chambre avec un espace pour un lit et un bureau. L'agence spatiale américaine mène des scénarios d'isolement sur Terre. Un programme appelé High Seas avant de tenter d'envoyer des astronautes vers la planète rouge. C'est ce qu'elle espère pouvoir faire dans les années 2030. Deux autres missions High Seas sont prévues en janvier 2017 et 2018. Elles dureront 8 mois chacune. Les volontaires sont aujourd'hui recherchés.
Et maintenant, Lionel, Jacques Aristide explique une nouvelle étude qui renforce l'idée sur la relation entre l'homme et le chien. Ce n'est un secret pour personne. Depuis des siècles, le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme, n'est-ce pas, Jacques ?
Oui, une amitié fondée vraisemblablement sur un très fort niveau de compréhension. Publiée dans la revue Science, l'étude révèle en effet que la race canine est dotée d'une région dans son cerveau sensible à la voix et qu'elle sait y interpréter les émotions de l'émetteur, qu'il soit à quatre pattes ou sur deux pieds. Pour pouvoir réaliser leurs travaux, les chercheurs de l'université Laurent Edvos à Budapest en Hongrie ont dû d'abord dresser une dizaine de chiens à rester immobiles avec un casque sur les oreilles, placés dans une machine à IRM, afin d'observer l'activité de leur cerveau dans les mêmes conditions que pour les sujets humains qui ont pris part à l'étude. Tous ont eu à entendre la même série d'environ 200 sons différents, comportant des séquences de rire ou d'aboiement ludique, aussi bien que des pleurs ou des gémissements plaintifs au milieu de sonorités non associées à la voix. Les scientifiques ont également fait écouter aux chiens la voix de leur maître exprimant des mots dans la langue hongroise. Résultat, les images IRM mesurant ces activités cérébrales pouvaient indiquer que les chiens étaient